comme un commun. Une émission proposée par Interphase, le vendredi, de 10h à 11h.
Bonjour à tous et bienvenue sur Comme un commun, première émission de 2018. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec l'objectif de parler des communs urbains bien sûr, mais surtout de pourquoi on s'implique dans les communs, de qui sont les personnes qui s'y impliquent, quel est leur profil, qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire en s'y impliquant, et est-ce que c'est plutôt pour une vision personnelle ou plutôt pour une vision partagée qu'elles s'y impliquent. Petit rappel donc de cette émission, nous développons ça une fois tous les 2 mois et on espère bien vous avoir de manière régulière à nos côtés. Alors pour parler des parcours autour des communs, pour parler des parcours des contributeurs des communs, on a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous 3 personnes. Nous avons Mélissa, nous avons Chloé, nous avons Christian, et chacun prendra un petit moment pour expliquer un lien qu'il a avec ses différents travaux. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Mélissa Marguerite et à Chloé Fache pour qu'elles nous expliquent le travail qu'elles ont mené avec dans le cadre d'un groupe de travail d'étudiants.
Comme un commun avec Interphase.
Bonjour, c'est Chloé. Dans le cadre de notre Master 2 Sociologie Développement Social, on a participé à un cours qui s'appelle « Conduite de projets participatifs ». On est 6 étudiants à avoir choisi de travailler sur la thématique autour des communs. L'objectif du projet, c'était de rencontrer des individus qui, volontairement ou non, se sont engagés dans leur vie à faire du commun. L'intérêt, vraiment, c'était de comprendre leur trajectoire de vie, de comprendre ce qui a conduit ces individus à faire du commun. Si on a choisi cette thématique, mes collègues et moi, c'est surtout parce qu'on s'est rendu compte en discutant que la notion de commun faisait partie intégrante de notre vie, mais on s'en rendait pas forcément compte. Et quand on a commencé à en discuter, ça a évoqué énormément de choses chez nous. Et puis, comme on vient de la métropole lilloise, c'était aussi intéressant d'aller à la rencontre d'individus, de vraiment comprendre leur trajectoire de vie.
Super, merci beaucoup. Et alors Mélissa, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la méthode que vous avez utilisée ?
Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc je suis Mélissa Marguerite. Alors pour ce travail, on a d'abord fait une sorte d'état des lieux de toutes les initiatives qui se trouvaient sur la métropole lilloise. Ensuite, on a mis en place des thématiques parce qu'on avait envie vraiment de rencontrer des personnes qui avaient des pratiques dans des domaines différents. Du coup, on a mis en place 4 thématiques. Donc il y a partager l'art en ville, habiter ensemble, le sport en ville et partager des espaces et des savoirs. Donc ensuite, on a créé un guide d'entretien pour faire des entretiens semi-directifs. Donc en fait, ce guide d'entretien, il comportait à la fois une partie sur le projet, son histoire, son évolution, ses valeurs. Ensuite, des questions plus personnelles sur le parcours de la personne qu'on a rencontrée, donc avec son histoire personnelle. Ses formations, ses expériences ainsi que ses valeurs. Ensuite, on avait toute une partie sur des questions relatives au domaine, la thématique qui correspondait au projet associatif ou au collectif. Et ensuite, on a posé des questions plutôt conceptuelles sur quelle définition la personne pouvait avoir des communs, mais également des communs urbains. Et on a également questionner la projection des individus dans 5 ou 10 ans. Et on a fini l'entretien avec une question sur quelle serait votre ville idéale pour avoir un petit peu une image un petit peu utopique, un idéal de la personne.
Et alors à partir de ça, vous avez fait une restitution de tout ce que vous avez collecté pendant ces quelques mois en fait, d'entretien ?
Alors oui, en effet, on a monté un dossier qui retrace un peu tout le cheminement que nous avons fait pour arriver à ces résultats. On a créé des cartes d'identité pour chaque acteur et ces cartes d'identité, elles permettent de vraiment lire les propos qui sont vraiment intéressants de chaque acteur et qui sont très singuliers. Ensuite, il faut dire qu'on a mené une soutenance avec mes 5 collègues où on a pris 5 individus et on a choisi de les visualiser avec des grandes cartes d'identité géantes. Et on a expliqué un peu tout ce qu'on avait fait et ce que cela a pu en dire. À la suite de cette soutenance, on a invité les personnes qui étaient présentes à créer en fait leur ville idéale en Lego. Parce que comme Mélissa a pu le dire, c'était vraiment la question qui clôturait nos entretiens et la manière de vraiment inviter les personnes à définir ce que pouvait être leur ville idéale. Et donc du coup, voilà, chaque personne a pu donner un élément, une caractéristique de ce que pouvait représenter une ville en commun, une ville idéale en commun.
D'accord. Et alors, qui sont les personnes que vous avez identifiées dans ces cartes d'identité ? Mélissa, tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, alors on a rencontré 11 personnes. On a rencontré Julien, qui fait partie du collectif Renard et qui est à l'origine du projet et qui a pendant longtemps été bénévole, mais qui est un futur salarié. On a également rencontré Lucas de l'association Cultural. On a rencontré Pierre, qu'on retrouvera également après, qui fait partie d'une association étudiante qui s'appelle les Bidouilleurs Libristes. On a rencontré Alexis, qui a été le porteur de projet du café participatif de Bois Blanc. On a également rencontré Sylvain, qui est un élu à la culture à la mairie d'Elem. On a rencontré René, qui fait partie des Ajons, donc des jardins partagés. Dans la thématique de l'habitat participatif, on a rencontré Sophie, qui fait partie des Voisins du Quai, Philippe de l'association Anagramme et Marie de Toi Moi Nous. Et dans la thématique du sport en ville, on a rencontré Thomas de l'association Spartak et Johan du Parcours.
Un bel échantillon. Donc vous avez travaillé Mélissa, Chloé avec également Mira, Lorraine, Quentin et Mourane. Et oui. Vous avez, à partir de ces rencontres avec ces 11 personnes, pu également identifier peut-être une perception spécifique que ces personnes pourraient avoir des communs.
J'ai commencé l'informatique en terminale S. En terminale, j'ai commencé à écrire du code. Et assez rapidement, je suis tombé dans le logiciel libre. Du coup, ce qui fait que je suis aussi un peu rentré dans les communs. Je suis rentré dans les communs par le logiciel libre. Voilà, assez rapidement, je suis tombé dans le logiciel libre qui correspondait tout à fait à ma philosophie. Et, voilà, c'est de la connaissance, tout le monde doit pouvoir l'utiliser et tout le monde peut faire ce qu'il veut avec. Et la connaissance appartient à tout le monde et il n'y a pas de limite et on peut y aller.
Alors là, du coup, c'était un extrait de l'entretien qu'on a effectué avec Pierre, qui fait partie de l'association étudiante Les Bidouilleurs Libristes. Alors, ce qui était très intéressant avec Pierre, c'est que pendant notre entretien, il nous a spontanément parlé des communs. Il a spontanément affirmé qu'il faisait dans le commun. Et donc, son investissement dans les communs passe par le logiciel libre. Du coup, selon lui, en fait, tout projet libre fait partie des communs. Et il a une définition assez intéressante des communs. Il nous dit que les communs, c'est tu possèdes tout ce que tu peux détruire. Donc c'est l'idée que, en fait, ça renvoie à la possibilité d'avoir la maîtrise et le contrôle des choses, tel qu'on peut le retrouver aussi dans les espaces. Il nous montre en fait que la ville n'est pas un commun actuellement, car il n'y a pas d'espace libre. Donc en fait, selon lui, un espace commun, c'est un espace à la fois qui est accessible, mais un espace aussi au sein duquel on est accompagné. Donc l'espace commun passe nécessairement par des relations. Il prend l'exemple des logiciels libres pour nous dire que, certes, ce sont des connaissances qui sont accessibles à tous, mais s'il n'y a pas d'accompagnement pour dans la création ou dans la compréhension, ça sera pas pertinent en fait, ce sera pas un vrai accès. Okay. Voilà.
Et alors ils ont été accompagnés pour en arriver là, comment quelque part ils en sont arrivés là?
Mes motivations dès le départ sont doubles, c'est à la fois un intérêt marqué pour la nature et c'est aussi un intérêt pour le lien social et pour des dynamiques de groupe. Ben cela, c'est pas par hasard que je me suis retrouvé à la tête de ce type de projet.
Alors, on vient d'entendre René Penet, donc du coup, qui a créé les Ajonc, donc l'association sur les jardins partagés. René, en fait, il nous dit par exemple que lui, ses motivations, c'est vraiment une passion qu'il a depuis longtemps chez lui, une passion liée à la nature. Et Et cette passion l'a amené à s'engager dans le milieu associatif depuis très longtemps. Ses motivations pour lui, ça va vraiment être d'impliquer les personnes, les habitants dans ses projets et de solliciter leurs initiatives. Après, on a rencontré aussi Marie de l'association Toi, Moi, Nous, qui, elle, par exemple, ses motivations, c'est lié vraiment au partage. Et le partage, c'est vraiment l'une des valeurs dont elle nous a le plus parlé. Transmettre à ses enfants des bonnes pratiques, ce qu'elle appelle des bonnes pratiques, c'est vraiment le respect et l'ouverture aux autres. Donc on peut voir par exemple que pour ces deux personnes, ce qui les a amenés à faire du commun, ça peut être vraiment des motivations qui vont être différentes, mais à la fois complémentaires.
Et donc à partir de ces différents exemples et de ces, différentes motivations, vous étiez arrivé à tracer, au-delà des cartes d'identité, un peu un profil type. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Chloé ?
Alors oui, avec une petite analyse de tous les entretiens qu'on a menés, on s'est rendu compte qu'il y avait des similitudes et des similitudes dans les réponses qu'on a obtenues. Par exemple, dans la conception personnelle de l'engagement, dans la vision des communs. Et donc, si vous voulez, on a essayé de créer un profil type qu'on a appelé Bob. C'était une manière un peu de parler de cette personne imaginaire, mais qui pouvait vraiment définir les réponses qu'on a obtenues. Donc du coup, si je peux un peu vous parler de Bob, Bob c'est un homme. C'est un homme qui est originaire du Nord-Pas-de-Calais et qui a environ une trentaine d'années. Bob, lui, il a fait des études dans les sciences sociales et s'il s'est engagé dans un projet associatif autour des communs, c'est surtout une initiative amicale. Il partage des valeurs, il partage les valeurs de l'éducation populaire, de la transmission, du partage. Ensuite, Bob, on s'est rendu compte que, en fait, il n'avait pas vraiment de frontières entre sa vie privée et sa vie professionnelle parce que son engagement, il est total. Si on lui pose la question de « qu'est-ce que tu feras plus tard ?», Bob, il nous répondrait qu'il y a trois possibilités. Il y a premièrement possibilité de faire autre chose, complètement différente. Il y a une autre possibilité qui serait de faire le même projet mais ailleurs, ou encore de rester dans ce même projet. Ensuite, Bob, pour lui, les communs, ça serait un même lieu, utilisé par tous, mais de manière différente. Et si finalement on lui demande quelle est ta ville idéale, il nous répondrait qu'une ville idéale, ça serait une ville qui serait moins cloisonnée, avec plus de verre, et qui permettrait plus de liens, de coopération entre les individus.
Et vous, est-ce que vous êtes dans cette idée que finalement... l'engagement, la différence entre la vie personnelle et professionnelle, finalement, c'est peut-être quelque chose d'assez ancien. Est-ce que ce travail de recherche pendant ces quelques mois vous a conforté dans cette idée-là par rapport à votre propre parcours ? Du coup, il y a un peu deux questions. À la fois, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce travail ? Et en même temps, est-ce que ce travail est aussi peut-être un révélateur de la place que les communs peuvent avoir à vous dans votre vie et dans votre future vie ?
Alors oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on était six personnes et qu'on avait chacun des expériences, des valeurs différentes. Mais on s'est rendu compte, tous les six, que de façon inconsciente, qu'on n'avait pas mis le mot commun sur certaines de nos pratiques ou certaines de nos valeurs, mais on s'est rendu compte que c'était aussi inhérent à nos modes de vie et que c'était là un peu quotidiennement. Ce qui est intéressant aussi à travers ce travail, c'est qu'on s'est chacun approprié ce travail, on s'est chacun donné d'une certaine façon, et ça nous a à tous donné envie de nous investir, que ce soit professionnellement ou bénévolement, dans des dynamiques autour des communs. Ça nous a également permis d'avoir une nouvelle vision, une vision un peu différente du territoire et de la métropole lilloise. Parce que même si on y vit quotidiennement, on n'avait pas forcément conscience de toutes les initiatives qui pouvaient y avoir, tous les projets qui pouvaient être mis en place. Et on a également vraiment on s'est familiarisé avec cette notion de commun et on s'est rendu compte que ça se retrouvait au cœur de nos préoccupations.
Oui, et puis c'était aussi intéressant de se rendre compte que des personnes font du commun sans s'en rendre compte. Et donc au final, que le commun est tout autour de nous, à n'importe quel moment, mais qu'on ne s'en rend pas forcément compte.
je pense.
Oui, c'est ça, ouais. C'est mettre un mot sur des choses qui se font déjà. Du coup, on se dit aussi que c'est un travail qui mériterait vraiment d'être poursuivi, parce que là, on a fait 11 entretiens, mais il y a beaucoup d'autres projets qui pourraient être interrogés et pertinents d'inclure dans ce travail.
Et vous aimeriez bien le continuer, vous ?
On aimerait bien, oui, on aimerait bien. Après, là, cette année, on finit notre dernière année de master, mais c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur et je pense qu'on aimerait tous poursuivre.
Bien sûr.
Okay, super, ça nous donne des belles perspectives. Et alors, du coup, vous avez parlé dans la dernière question que vous posiez à toutes les personnes que vous rencontriez de leur vision de la vie idéale. Mm-hmm. Moi, ça m'intrigue. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Est-ce qu'il y a un lien entre leur ville idéale et nous, la manière qu'on a de parler des communs urbains ? Ou il n'y en a pas du tout ?
Alors en fait, ça c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte en analysant un petit peu les réponses des personnes, et on s'est rendu compte, donc voilà, on avait une question sur la définition des communs et des communs urbains, mais également une question sur qu'est-ce que pour vous la ville idéale. Et en analysant, en observant les réponses, on s'est rendu compte que les personnes répondaient la même chose, que les réponses étaient similaires entre la façon de concevoir les communs et la perception de la ville idéale. Donc en fait, on s'est demandé si la ville idéale n'était pas faite de communs. Et on peut également se demander comment les communs et les commoners, donc les contributeurs aux communs, participent d'une certaine façon à construire une ville idéale.
Oui, puis c'était aussi intéressant de voir que les valeurs que partagent les individus qu'on a rencontrés se retrouvent en effet dans la vision des communs et dans la vision de la ville idéale. Quand les personnes nous parlent de partage, de respect de l'autre, de l'environnement, au final, ce sont des éléments qui se retrouvent dans la ville idéale et qui sont partagés plus ou moins par tous. Donc ça aussi, c'est quelque chose à retenir.
Mmh. Ville idéale, les communs urbains, on va se quitter. Merci beaucoup Chloé, merci beaucoup Mélissa. En
merci.
Écoutant Julien Prouveur du collectif Renard et sa vision de la ville idéale et des communs. Merci.
Merci.
Bon, la ville idéale, j'y vois des sourires, j'y vois l'usage plus que la propriété. Mais l'usage au sens positif du terme, c'est-à-dire pas la consommation. L'usage des bâtiments, et dans une logique où on arrive effectivement à fédérer, c'est le terme qui est important pour moi, à la fois les énergies, les envies, et puis aussi, je la vois avec une belle mixité, ça peut être difficile, je crois, une mixité qui tire vers le haut, au niveau des gens qui y habitent. J'y vois avec des petits commerçants, plutôt que des plein de chaînes comme aujourd'hui, et des artisans, je suis peut-être un peu réac, mais je trouve que c'est comme ça à devenir compliqué au niveau du commerce. Sur ce sujet-là, je le vois plutôt comme ça. Et puis avec des espaces, des communs où les gens peuvent se rencontrer, échanger, discuter. Je la vois plus verte qu'aujourd'hui, si possible.
RPL. RPL Radio.
Différente. Et alors ?
Taking all the stone that I've got, and if you want.
valeurs, c'est comme un commun.
C'était Norma Fraser avec The First Cut is the Deepest. On continue sur cette notion de parcours, parcours de vie dans les communs. Après avoir entendu Mélissa et Chloé, nous allons laisser la parole à Christian, Christian Mailleux, qui va revenir sur l'histoire un petit peu de l'Assemblée des communs et qui sont les personnes qui contribuent aux Assemblées des communs, et notamment à Dunkerque, puisque la dernière Assemblée des communs lilloise a eu le mérite de se délocaliser sur la côte. Christian, on t'écoute.
Bonjour, Christian, Christian Mailleux. Je suis chercheur au CNRS et j'anime avec Stéphanie Bost de Interphase un programme de recherche-action qui s'appelle CréaCit pour créativité citoyenne. Et donc, c'est une coopération entre des chercheurs et des associations citoyennes. Parmi nos activités, nous avons animé depuis 3 ans ce que nous avons appelé une assemblée des communs. Et donc, depuis presque 3 ans, à raison d'un jour par mois, nous offrons en fait un format, une plateforme de rencontres et d'ateliers sur des projets collectifs portés en commun. Et donc, depuis 3 ans, plusieurs dizaines de porteurs de ces projets ou de personnes intéressées par la perspective des communs sont venus présenter leurs projets, en discuter, écouter les réactions d'autres personnes, et ils sont venus dire comment ils abordaient la construction de ressources partagées, comment ils développaient des expériences de coopération, comment ils essayaient d'inventer des nouvelles façons collectives de gérer leurs activités créées dans cette perspective de commun. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que parmi la dizaine de personnes qui sont passées, certains très régulièrement, d'autres qui sont venus plusieurs fois à l'occasion de nos assemblées des communs, il y avait à la fois des personnes jeunes qui étaient en fait dans des processus un peu de recherche et de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle et venant partager les premières expériences liées à leur participation à des projets, mais aussi des personnes moins jeunes, parfois ayant une assez longue expérience professionnelle dans des entreprises, dans des associations, dans différents contextes, et qui, après des périodes de réflexion, parfois de rupture, y compris en termes d'emploi, sont venus débattre de ce qui de leurs initiatives et de leurs expériences, parfois en lien avec la recherche de nouvelles modalités d'expériences professionnelles. Parmi les personnes qui sont venues partager cette réflexion collective et ce partage d'expériences sur les communs, il y avait des gens qui avaient déjà une assez bonne expérience du monde associatif et de la vie associative, et d'autres, finalement, qui cherchaient plutôt des nouvelles voies de création d'activités et trouvaient dans les communs ou la façon dont ils se représentaient les potentialités d'activités en commun, des nouvelles formes de création d'activités. Et donc, en fait, toutes ces expériences ont été partagées. Notamment, nous avons tenu très régulièrement pour ceux pour qui la notion de commun était moins familière, des ateliers de formation, de sensibilisation, de discussion sur les communs, et aussi d'autres ateliers où tel point qui peut bloquer le développement de ces projets collectifs, eh bien, était débattu, était discuté. Ce qui est tout à fait intéressant à remarquer, c'est que dans cette expérience de 3 années de discussion et de forum, sur les communs, rencontres auxquelles ont souvent participé de 20 à 30 personnes, à raison d'une fois par mois, eh bien, à la fois, il y a des solutions très concrètes aux projets des uns et des autres qui ont été discutés, débattus, des ressources qui se sont partagées, qui se sont aussi construites sur des thématiques qui pouvaient relever aussi bien des questions autour de l'alimentation ou des questions qui tournent autour de l'émergence et du développement de nouveaux lieux, de partage, ce que l'on appelle maintenant aussi les tiers-lieux et qui ont été souvent débattus aussi au cours de ces assemblées. Ce qui est tout à fait intéressant aussi de constater, c'est que des personnes ont trouvé des nouvelles voies un peu de développement personnel et de parcours professionnel autour de cette question du portage de projets collectifs en commun. Et d'ailleurs, nous avons aussi développé toute une réflexion sur ces spécificités de l'accompagnement de projets collectifs en commun. Alors Stéphanie faisait allusion à notre toute dernière rencontre, notre dernière assemblée des communs qui s'est tenue à Dunkerque tout à fait récemment. Et pour illustrer un peu la façon dont différentes personnes ont pu se sentir mobilisées, intéressées par ce format de rencontre et de discussion, je citerai rapidement trois profils de personnes qui ont participé à cette dernière assemblée des communs. D'abord, un responsable d'une association qui est en train de se créer à Chantilly, parce que nous sommes dans une perspective Hauts-de-France, si l'on veut, et donc, bien que la réunion se tenait à Dunkerque, nous avions différentes personnes qui s'étaient trouvées intéressées à venir échanger leur début d'expérience. Donc quelqu'un de Chantilly, dans l'Oise, qui, comme certains le savent, Chantilly, ça n'est pas seulement la crème du même nom, mais c'est aussi toute une activité hippique extrêmement importante, activité hippique qui concerne certains quartiers, notamment de la ville de Chantilly, activités hippiques qui sont en train de s'effondrer. Alors, on ne va pas développer cet aspect ici, mais à cause de la transformation des pratiques des paris en ligne. Et donc, il y a toute une problématique de aussi bien de délaissés urbains liés à la réduction de cette activité hippique, mais aussi de gens qui se posent des questions de reconversion, de développement de nouvelles activités. Et donc, cette association se fait le point d'ancrage et le point de développement de toute une série de réflexions sur les communs dont la personne souhaitait débattre avec dans ce format. Deuxième personne que je prends un peu dans cet échantillon de gens qui ont participé à cette assemblée, le responsable d'une association assez importante dans le contexte de Dunkerque, directeur d'ailleurs d'une maison de quartier et qui développe est responsable d'un certain nombre de centres sociaux et qui, dans ce contexte-là, développe toute une série de réflexions sur les communs en lien avec ces centres sociaux. Dernière personne, nous avions parmi nous, et ça nous arrive de temps en temps, effectivement, d'avoir des personnes qui sont élues, des élus municipaux, notamment la personne en charge de la participation citoyenne et de la démocratie participative de la communauté de communes de Dunkerque, qui est venu dire en quoi cette approche par les communs pouvait correspondre à des nouvelles formes d'engagement citoyenne et des nouvelles formes, de nouvelles façons de rendre concrètes les perspectives d'une participation citoyenne.
Merci beaucoup sur cet éclairage autour des parcours des communeurs de l'Assemblée des communs.
Vous écoutez Comme un commun sur RPL.
Bonjour Marina von Rosenschin-Paolin. Donc nous te contactons aujourd'hui parce que nous avions quelques questions à te poser en lien avec les communs. L'objectif de l'émission aujourd'hui est bien de parler des parcours de commoners, parcours de contributeurs aux communs. Et l'idée était aussi venue de faire un lien avec la jeunesse et son implication dans les communs. Naturellement, j'ai pensé à toi. Pourquoi? Parce que finalement, tu commences à avoir déjà donné beaucoup de ton temps au commun, de tes différentes années passées dans différents projets. Et il me semblait intéressant de faire le lien entre ça, ton parcours et les communs. Alors peut-être si tu peux te présenter en quelques mots, nous expliquer d'où tu nous parles.
Ça marche. Bonjour Stéphanie. Déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Alors, moi, comme tu l'as dit, c'est Marina von Rosenfeld. J'ai 22 ans. Et j'ai fait un parcours, j'ai commencé mon parcours universitaire avec un DUT, carrière sociale option gestion urbaine, que j'ai fait à Tourcoing, bien que je vienne de la région parisienne. Et voilà, donc un DUT en 2 ans qui m'a permis de faire 2 stages que j'ai fait dans le milieu associatif. Donc le premier avec l'atelier populaire d'urbanisme du Vieux-Lille et le second auprès d'Interphase, du coup, à tes côtés. Et ensuite, une fois que j'ai validé ce DUT, j'ai rejoint une licence 3 de géographie et aménagement du territoire à l'Université de Lille. Et j'ai fait un semestre, mon deuxième semestre à l'étranger en Russie. Et maintenant, je suis à présent en master 1, urbanisme et aménagement encore, dans un parcours qui s'appelle Eurostudis, études européennes de recherche sur le développement des régions en Europe.
Et les communs urbains, pour toi, ça te parle? Enfin, c'est vraiment au cœur de ton parcours?
Alors, évidemment que ça me parle, puisque j'ai fait mon mémoire de deuxième année de DUT à la suite de mon stage sur la thématique des communs urbains. Et voilà, sur un mémoire qui questionnait un peu les méthodes existantes pour mettre en œuvre les communs, et puis comment les communs urbains s'intègrent ou non, en fait, dans les processus d'urbanisme contemporain. Donc ça m'a vraiment ouvert la porte à un nouveau paradigme, à une nouvelle vision du monde avec les communs, parce que j'ai découvert beaucoup de projets pendant mon stage, beaucoup d'acteurs de l'urbanisme.
Et donc, tu peux nous en citer quelques-uns?
Oui, bien sûr. Alors, à qui je penserais? Je penserais à, par exemple, Espace est possible. Moi, j'ai étudié aussi deux jeunes qui ont fait un tour de France en vélo, de plein de projets citoyens et pour projets d'urbanisme citoyen. Aussi, j'ai pas mal étudié pour mon mémoire le cas de la Ufa Fabrik à Berlin, donc une ancienne usine de films qui a été reconvertie en un espace multifonctionnel, culturel. Et c'est un projet qui a été mené par des citoyens qui, à la base, avaient envie de s'engager pour leur quartier et ne pas laisser une friche en friche et voilà, en faire quelque chose de cet espace. Et tout à fait dans la logique des communs.
Et alors, ton expérience en Russie, à Kaliningrad, permet-elle de valoriser des communs urbains?
Alors, je ne sais pas si elle permet de valoriser des communs urbains. En tout cas, elle m'a permis à moi de me poser beaucoup de questions sur les communs, la place des communs en Russie. Et si elle n'est pas évidente, par exemple, dans les projets d'urbanisme, où on a vraiment très peu à faire à des projets avec des processus de concertation, etc., comme ça se développe beaucoup plus en Europe occidentale, Europe de l'Ouest plutôt. Par contre, je pense qu'il y a encore une place qui est accordée aux communs. Par exemple, quand j'y pense, dans l'espace public, en fait, les personnes, on voit souvent des personnes qui entretiennent de manière très volontaire les jardins ou alors leurs bas d'immeubles, etc., en faisant du jardinage, par exemple, du nettoyage, et ça semble poser de problème à personne. Donc c'est des simples citoyens qui s'occupent en fait de l'espace public comme si c'était un peu leur jardin. Donc ça, c'est quelque chose qui existe encore beaucoup, notamment dans les blocs soviétiques. Donc je pense que c'est une forme de commun, puisque c'est de l'appropriation par des citoyens qui est parfaitement accepté. Donc pour moi, c'est une forme de commun qui existe encore là-bas.
Et le prochain pays où tu comptes aller questionner ce concept?
Et là, je pars dans une semaine en Roumanie pour un stage de 2 mois dans une micro-entreprise qui s'appelle Make Better et qui travaille beaucoup sur ces thématiques-là en urbanisme et sur la thématique des logements informels et de l'urbanisme informel en périphérie des villes. Et qui cherche des solutions à ces problématiques-là et qui envisage aussi les choses sous le prisme du commun pour trouver des solutions.
Et par exemple, t'as eu l'occasion de te documenter un peu sur le genre de projet qu'ils développent?
Alors j'ai eu l'occasion de me renseigner. Je sais que par exemple, à une ville qui s'appelle Fagarès, ou à côté de Fagarès. Ils ont développé un projet dans une ancienne maison qui avait été auparavant occupée, le projet d'un espace de coworking et co-living pour des ONG, à destination d'ONG, de gens, de voyageurs, de gens qui veulent s'investir dans le développement de la région. Et voilà, c'est un espace qui a été rénové, une maison qui a été rénovée pour accueillir ces gens-là et de nouveaux projets. Et ce projet est encore en cours puisqu'ils veulent rénover une partie encore de la grange derrière qui doit permettre d'agrandir l'espace de coworking.
On a hâte de découvrir ça et que tu nous en racontes plus, on te rappellera quand tu seras là-bas. En attendant, super. En attendant, est-ce que pour toi, la ville en commun et la ville idéale ont un lien commun ?
La ville en commun et la ville idéale ?
Oui, est-ce que ta ville idéale est une ville en commun ?
Oui, je pense que oui, parce que c'est un lieu d'expérimentation, la ville, et qu'elle doit, se faire par... ces expérimentations doivent se faire par tous les acteurs concernés, donc voilà, pour pouvoir faire ensemble et mieux vivre ensemble. Donc je pense que oui, ça s'intègre complètement dans cette idée.
Ok, bah merci beaucoup. Tu confirmes le profil de Bob dont on a parlé précédemment. Merci Marina, bon voyage, profites-en bien.
Merci à vous.
À très bientôt.
À très bientôt, bonne continuation. Au revoir.
Merci Marina. On enchaîne maintenant avec Lassa et la Célestine.
Pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vístate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces.
Comme un commun sur RPL.
Alors, nous avons parlé de parcours de commoners, de parcours de contributeurs, et nous essayons à chaque fois, avec Comme un commun, de vous faire voyager. Alors, nous avons voyagé à l'instant avec les musiques, mais également avec les propos de Marina, qui nous parlait de la réalité des communs urbains à Kaliningrad ou de communs urbains en Roumanie. Il me semblait intéressant de prendre un petit temps un peu plus théorique sur cette fin d'émission et de vous faire réfléchir à un concept venu des pays du nord de l'Europe que l'on nomme, alors excusez mon suédois, l'Allmansrett. Donc l'Allmansrett, qui est donc en suédois, ou l'Allmansritten en norvégien, ou le Jokamiesnoyukus en finlandais. Oui, bon, là je pense qu'en finlandais c'était vraiment pas terrible. Donc ce sont des déclinaisons nationales d'un seul et même concept, à savoir le droit de tout à chacun de profiter de la nature et de ses fruits, indépendamment donc des droits de propriété qui peuvent y être attachés. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, figurez-vous qu'en Suède, en Norvège ou en Finlande, on peut se promener partout et jouir de la nature et des paysages sans avoir à demander l'autorisation de passer par telle ou telle zone, sans avoir à demander l'autorisation pour bivouaquer, pour camper. Et l'idée est vraiment de pouvoir profiter librement de la nature et de ce qu'elle peut nous donner à offrir. Alors, l'idée de départ n'est pas totalement propre aux pays nordiques. L'idée de départ est vraiment que la nature est un patrimoine commun qui doit rester accessible à tous. Donc, cette idée est admise depuis longtemps et elle est consacrée dans le droit suédois, non seulement dans la vision coutumière du droit, mais également, depuis 1964, la loi suédoise relative à la protection de la nature précise bien que la nature est une ressource nationale à protéger et à entretenir, qui est accessible à tous et dont la préservation est du ressort de l'État et des collectivités locales. Il y a donc bien une séparation entre la possibilité d'accéder et la possibilité de préserver. Et plus précisément, les chapitres 2 et 7 du Miljöbalken abordent également la question de l'Allmansrätt. Depuis 1994, la constitution suédoise précise ainsi que chacun doit disposer d'un accès à la nature en vertu de l'Allmansrätt. Le droit coutumier d'accès général à la nature a donc une valeur constitutionnelle, une valeur qui est donc retranscrite dans la Constitution. Nous en sommes assez loin dans notre pays. Si nous prenons un parallèle avec la réalité française, il existe un petit territoire qui est l'Alsace, où le droit n'est pas tout à fait le même que dans le reste de notre territoire hexagonal. Le droit local, hérité de l'ancien droit allemand en Alsace, prévoit que, dans le domaine de l'eau, de l'exploitation forestière ou de la chasse, les ressources sont à gérer en commun, indépendamment de la propriété privée. Et donc, on se rapproche quelque peu de cette réflexion autour de l'Allmansrätt, ce droit à profiter de la nature. Dans le reste de la France, on pourrait également mettre en avant le territoire du littoral. En effet, une législation ne permet en fait en tant que telle de pouvoir utiliser la servitude de passage pour les piétons en bordure du littoral. mais c'est uniquement sur le littoral. Et encore, faut-il qu'il n'y ait pas eu des maisons qui aient été construites avant la loi littorale qui empêche certains amoureux de la promenade ou amoureux du littoral maritime de pouvoir effectivement accéder à ce littoral. Et donc aujourd'hui, on pourrait se demander dans quelle mesure nous pouvons effectivement faire remonter cette idée d'avoir en tant que tel un véritable droit à la nature qui pourrait se rapprocher de cet Almansrett, cette possibilité de profiter, de jouir de la nature et de pouvoir, tant qu'on le souhaite, pouvoir faire des bivouacs quand on le souhaite sans avoir à demander l'autorisation d'un propriétaire. Alors vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais n'y a-t-il pas des abus ? Bien évidemment, nous sommes dans un pays, quand je vous donne l'exemple de la Suède, où il y a, en Suède, en Norvège, en Finlande, trois facteurs qui permettent à cet Almansrett de continuer à être présent dans le territoire. À savoir qu'il y a une grande proximité des peuples nordiques avec la nature qui est, somme toute, assez omniprésente, puisque les centres-bourgs ne sont pas aussi denses que ce que nous les avons dans notre territoire. D'autre part, la vision communautaire des droits sur la nature est fortement prégnante dans le territoire. Plutôt qu'un droit de propriété individuelle, il faut permettre à tous de profiter des richesses de la nature. Et puis, les espaces naturels sont vastes et sont peu peuplés, ce qui n'est pas le cas de, par exemple, nos territoires alpins, où, somme toute, il y a encore de nombreuses communes. Donc, évidemment, nous ne sommes pas en mesure de calquer et de faire un copier-coller de cet Almansrett dans notre territoire national. Néanmoins, il convient de se poser cette question en lien avec la question des communs urbains et peut-être, par la suite, de proposer une émission spécifique de communs communs autour de cette idée, la nature en ville peut-elle être un Almansrett ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui déjà des exemples de communs naturels dans notre territoire urbain ? Nous pourrions prendre, nous en avons parlé précédemment, comme exemple les ajoncs, mais pourquoi pas se donner comme défi de répondre ensemble à l'idée que la citadelle lilloise, mais aussi poumon vert de la métropole, puisse devenir un droit à la nature, un commun urbain, voire un commun naturel. Je vous laisse en réfléchissant à tout ça et je vous souhaite une bonne journée.
Comme un commun avec Interphase.
Et donc, après ce petit temps de réflexion, maintenant passons à l'action. Alors, l'action, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'idée de vous présenter l'agenda des communs. Un agenda bien fourni pour ce premier trimestre 2018, qui nous permet d'évoquer plusieurs grandes idées pour le développement de l'année 2018. Alors, vous pouvez déjà noter et faire deux petites croix sur votre main de ce qu'il va se passer fin juin, début juillet à Roubaix, avec un gros événement consacré à l'urbanisme temporaire et participatif qui s'appelle Superville. Donc, Superville prendra même le nom de Superpile. Pourquoi ? Parce que ça se passera en lien avec la condition publique donc à Roubaix, du dernier week-end de juin au premier week-end de juillet. Et donc le premier week-end de juin sera vraiment plutôt l'occasion de confronter et faire se rencontrer des collectifs d'urbanisme participatif d'un peu partout en France. Et la semaine qui suivra sera l'occasion d'avoir des conférences, des débats, des temps de chantier participatifs et de finir sur le premier week-end de juillet, sur le week-end de Pile au rendez-vous, qui est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les Roubaisiens, mais également pour tous les métropolitains qui s'intéressent à ce territoire tout à fait passionnant qu'est Roubaix. Donc ça, c'est plutôt pour cet été. En avant de cela, il est intéressant de rappeler qu'une interface essaye de mettre en place une biennale de cartographie pour pouvoir aborder l'idée que la cartographie n'est pas uniquement la carte telle qu'on nous la présente quand nous sommes collégiens, voire même plus jeunes, mais que la cartographie est devenue aujourd'hui un outil absolument indispensable pour travailler aussi bien dans les outils numériques que dans la réalité de la compréhension de l'urbanisme et donc des communs. Et pour préparer ce rendez-vous que nous souhaitons mettre en œuvre sur la fin de l'année 2018, nous faisons un premier casse-croûte créatif ce midi, donc ce vendredi 9 février de 12h à 14h à la Mresse. Alors malheureusement, il est un peu tard pour vous inscrire puisque l'idée était de s'inscrire quelques jours auparavant. Mais n'ayez crainte, nous essaierons certainement d'en refaire un très prochainement et nous reviendrons sur ce qu'il s'est passé dans le cadre de la prochaine émission afin de vous faire partager un petit peu ce que nous mettons derrière cette idée d'une biennale de cartographie. Nous avons en tête d'en faire une première édition sur fin 2018 pour ensuite profiter de Capitale Mondiale du Design, puisque Lille en 2020 aura la chance d'accueillir ce gros événement. Par ailleurs, plusieurs autres projets sont en cours. Nous pouvons parler de la prochaine Assemblée des communs qui se tiendra à Lille au mois de février, sur la fin du mois de février. Il y a également une exposition qui est en cours en lien avec un auteur de bande dessinée. Pour l'instant, le projet n'est pas encore clairement défini, donc je n'en dis pas plus, mais simplement pour vous tenir au fait des réalités des projets en cours. Et puis, une publication sur laquelle nous sommes plusieurs à avancer, sur l'idée de mettre en avant l'idée qu'aujourd'hui, on passe des collectifs au commun. Et donc, qu'est-ce que ça questionne? Qu'est-ce que ça interroge? Et comment on passe effectivement de la logique de collectif à la logique de commun? Tout ça est à suivre et ce sera l'occasion d'en rediscuter dans le cadre des prochaines émissions de Commun Commun. Je vous quitte en vous disant à vendredi dans 2 mois et écoutez avec nous Marisa Beijo de Saudade.
RPL. RPL Radio.
Différente. Et alors?
Sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade para levar ao mar. A minha terra, para levar ao mar e o mar, a minha terra. Minha terra é aquele que é pequenino, é Cabo Verde, aquele que é de meio, terra que na mar. É filho de seu, terra de minha mãe, terra de minha credil. Nas tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo. Na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo ao Tejo. Saudade, para vou levar mar, para mar, levar minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Para levar ao mar
fueron